Bonjour, frères et sœurs. Courbons nos têtes. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui nous révèle qu'effectivement, tu es notre roi, notre Dieu, et qu'aucun autre Dieu, aucune divinité ne peut se comparer à toi. Aucun roi sur la terre n'est ton égal, parce que tu es le Créateur. Tu es celui qui juge les cœurs, et tu es celui qui a inspiré ta parole aussi. Parle à nos cœurs aujourd'hui, comme tu as parlé à l'époque à ton peuple d'Israël, comme tu as même parlé aux Philistins, comme tu as parlé aux hommes et aux femmes de toutes les époques, mais tu nous parles aujourd'hui d'une manière des plus grandioses et des plus belles par ton Fils Jésus. Nous sommes assemblés ici parce que nous avons foi en ton Fils. Permets que ceux qui n'ont pas encore mis toute leur confiance en Jésus pour leur destinée éternelle, pour leur salut, puissent saisir l'occasion ce matin. Et à chacun d'entre nous, rappelle-nous cette vérité importante alors que tu nous instruiras par ton Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, dans notre étude du livre de 1 Samuel, on est au moment où l'Arche de l'Alliance, le coffre qui avait été construit selon les dimensions, toutes les spécifications de l'Éternel lui-même, cette arche-là avait été construite, dans laquelle résidaient les deux tables de la loi, qui étaient le symbole même de la présence de Dieu au sein de son peuple. Cette arche-là avait été capturée par l'armée des Philistins, qui avait remporté la victoire contre Israël. Comme on l'a vu la semaine passée, si Israël avait subi une grande défaite, une humiliation devant son ennemi, ce n'était pas l'humiliation de l'Éternel. L'Éternel était demeuré le grand Dieu qu'il a toujours été. En fait, c'est parce que l'Éternel lui-même était devenu l'ennemi de son peuple pour le juger. Et non seulement son peuple avait subi une grande défaite, mais l'arche, qui était le symbole même de l'union, de l'alliance, avait été enlevée. On a vu dans le chapitre 5 comment l'Arche de l'Alliance qui a été mise dans le temple du dieu Dagon, le faux dieu Dagon des Philistins, comment ça avait été finalement une cause de grand malheur chez les Philistins. Une grande plaie est tombée sur le peuple des Philistins. Ils ont été affectés de la maladie des hémorroïdes, mais il semble que ce n'était pas la même qu'on connaît aujourd'hui. C'était suffisamment grave pour qu'on en meure. Certains traduit ce mot-là par des tumeurs causées par une peste. Quoi qu'il en soit, c'était une contagion, une épidémie qui a touché tous les rangs sociaux, même parmi les Philistins, autant les pauvres que les grands, les nobles, les riches, comme les serviteurs. Donc, tout le peuple était affligé de cette grande plaie, au point où ce qu'ils ont conclu, bien, l'arche, il faut qu'elle sorte du temple de Dagon, on va l'envoyer dans une autre ville. Et à chaque fois que l'arche était transportée dans une autre ville des Philistins, cette ville-là était frappée de la même plaie. Si bien que l'humiliation que le peuple des Philistins voulait causer à l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'est transformée finalement en tournée victorieuse de l'Arche de l'Éternel. Sans même qu'aucun de ses serviteurs ait prêté main forte, Dieu lui-même a fait en sorte que son emblème, son arche, soit transporté d'une ville à l'autre et triomphe de ses ennemis. Donc, le Dieu d'Israël a été glorifié dans cette situation où ses ennemis voulaient l'humilier. Et c'est le peuple des Philistins, finalement, qui s'est trouvé dans une grande détresse, au point de crier vers le ciel. Ils ont comme réalisé là, que d'aller prier leur dieu Dagon, ce n'était pas suffisant. Et ils ont crié au ciel, et l'appel au secours est monté jusqu'au ciel, jusqu'aux oreilles de Dieu qui les a entendus. Et comme on a un Dieu qui est compatissant, prêt à faire miséricorde et à faire grâce même à ses ennemis, il a entendu leur prière, et Dieu, dans sa compassion, va leur fournir un moyen de s'en sortir, avant que finalement ils ne périssent tous. Et c'est ce qu'on va étudier ce matin dans 1 Samuel, chapitre 6. Nous allons lire jusqu'à 7:1. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. » Et ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais apportez-lui un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi la main de Dieu ne s'est pas écartée de vous. » Les Philistins dirent, « Mais quel sacrifice de culpabilité lui apporterons-nous? » Ils répondirent, « 5 images d'hémorroïdes ou de tumeurs en or, et 5 souris en or, d'après le nombre des ducs des Philistins. Car une même plaie a été sur vous tous et sur vos ducs. Faites des images de vos hémorroïdes et des images de vos souris qui ravagent le pays. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être allégera-t-il sa main qui est sur vous et sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et le Pharaon ont endurci leur cœur? Lorsque Dieu agit lui-même contre eux, ne renvoyèrent-ils pas les Israélites qui purent partir? Maintenant, faites prendre un char tout neuf et 2 vaches qui allaitent et qui n'aient pas porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous mettrez sur le char. Vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous apporterez en sacrifice de culpabilité. Puis, vous la renverrez et elle partira. Vous verrez bien si elle monte par le chemin de la frontière de Beth-Shemesh. Si elle monte, vous verrez bien, si elle monte par le chemin de la frontière de Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappé d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au char, en enfermant les petits dans la maison. Et ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les images de leurs hémorroïdes. Et les vaches allèrent tout droit sur le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les ducs des Philistins la suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les gens de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée et ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était avec elle et qui contenait les objets d'or. Ils les posèrent sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 ducs des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les images des hémorroïdes d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or pour chacune des villes des Philistins et appartenant aux 5 ducs. Depuis la ville fortifiée jusqu'au village ouvert et jusqu'à la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils fixèrent les regards sur l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes sur 50 000 parmi le peuple, et le peuple prit le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand coup. Et les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Vers qui montera-t-il en s'éloignant de nous? » Et ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yarim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Les hommes de Kiriath-Yarim vinrent et ils firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils y consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Amen. Ce texte-là, on peut le voir en 3 sections. Donc, c'est un récit qui se passe presque tous la même journée. Mais on peut voir 3 sections et chacune d'elles met un accent particulier sur une qualité de Dieu, une caractéristique de Dieu, de son caractère. D'abord, la capacité de Dieu de contrôler les événements. On voit ça au verset 1 à 12. Ensuite, le Dieu qui est juste, la justice de Dieu. Et finalement, la sainteté de Dieu. C'est intéressant que c'est souvent lorsqu'on On est dans un temps d'épreuve comme le peuple a vécu là, que les qualités de Dieu ressortent et sont les plus manifestes. On apprend à connaître Dieu davantage par les épreuves que l'on vit ou les épreuves dont on lit le récit dans la Bible. Donc, la première caractéristique de Dieu qui est mentionnée ou qui est sous-entendue, c'est sa capacité à contrôler les événements qui sont habituellement attribués à la mère nature là, ou à la chance, au hasard. Et c'était justement un phénomène qui était débattu chez les Philistins à ce moment-là. Ce qui les concernait tous, c'était l'épidémie qui sévissait parmi eux. Ils se demandaient si c'était l'Éternel qui en était responsable. C'est sûr que les habitants d'une ville, à force de souffrir, ils en étaient convaincus. Ils envoyaient l'arche ailleurs. Donc la plupart étaient convaincus qu'il fallait renvoyer l'arche. Donc ils admettaient que Dieu était en cause. Mais il semble que c'était quand même une cause de débat. Il restait un doute. Ça n'avait pas été prouvé hors de tout doute que Dieu était le responsable. Il pouvait s'agir d'un hasard. On le voit au verset 9 que une des raisons pour laquelle ils vont faire ce test-là, de renvoyer l'arche sur un char, c'est pour voir si ce qui est arrivé n'est pas arrivé par hasard. Mais c'est une occasion qui est donnée à Dieu, finalement, de prouver qu'il était bien l'auteur du malheur qu'il vivait. Donc, le renvoi allait servir de test. Mais le fait même qu'ils étaient en train de discuter de cela, c'est montré par le narrateur ici qui nous rapporte ce récit, que le fait qu'ils sont tout à coup, ils ont tenu conseil, ils ont même demandé à leur sacrificateur et leur devin des conseils, c'était voulu par Dieu. Et ils se sont posé la question comment ils allaient renvoyer l'arche au moment précis où Dieu voulait que son arche parte. Donc Dieu contrôle non seulement les événements qu'on pourrait juger de cause naturelle, mais même les actions des hommes, même leurs pensées, leurs projets, même la manière dont ils se consultent, la conclusion à laquelle ils vont arriver. Dieu a le plein contrôle sur tout, finalement. Ça n'excuse pas nos choix, mais Dieu accomplit son plan, même à travers les intentions, les actions qui sont posées. Et Dieu a fait en sorte qu'il se pose justement cette question-là, qu'il tienne conseil, parce que leur cri de détresse était monté jusqu'à ses oreilles. C'est pour ça qu'ils étaient arrivés à la conviction qu'il fallait renvoyer l'arche. Mais c'était tout un symbole de défaite. Si d'avoir capturé l'arche, c'était un signe de gloire pour eux, la renvoyer, c'était vraiment humiliant. C'est au moment précis où le texte dit que 7 mois s'étaient écoulés. Si vous avez déjà lu la Bible en entier, vous avez remarqué que le chiffre 7 revient souvent. Et c'est souvent associé à l'œuvre de Dieu et pour indiquer que l'œuvre de Dieu est complète. On peut comprendre ici que le jugement, la plaie qui devait sévir chez les Philistins était complète. La colère de Dieu était prête à être apaisée. Donc, le jugement des Philistins était terminé. En tout cas, pour cette période de l'histoire, parce que Dieu va les frapper plus tard, mais pour ce moment-là, il y aura une trêve. Puis c'est intéressant de voir que lorsqu'ils se réunissent, pourtant c'est les ducs, c'est les responsables, les chefs de guerre qui sont là, et leur réflexion ne se fait pas au niveau politique, au niveau de l'armée ou économique, il se fait vraiment au niveau religieux. Ils se demandent comment renvoyer l'arche de manière qui va convenir au Dieu d'Israël. Même le fait qu'ils réfléchissent en mode religieux ou spirituel était voulu par Dieu. Donc, ils consultent leur sacrificateur, leur devin. On ne sait pas grand-chose sur les devins à l'époque. La Bible se contente de le condamner, cette pratique-là. C'était interdit aux Israélites. Mais c'était des gens qui réfléchissaient aux choses spirituelles et qui essayaient de prévoir l'avenir. Et Dieu a fait en sorte que finalement, les conseils qu'il m'a donnés sont bons, sont justes. Et il leur conseille plusieurs choses. D'abord, je ne les présente pas en ordre chronologique, mais le fondement de cela, c'est « n'endurcissez pas vos cœurs ». Attention, là vous êtes sur le point de prendre une décision, faites très attention de ne pas endurcir vos cœurs puis de dire « on va garder l'arche, on va défier ce Dieu ». Puis pour les avertir de ne pas endurcir leur cœur, il leur rappelle comment les Égyptiens et Pharaon avaient endurci leur cœur. Et ce n'est pas seulement une plaie qu'ils ont subie, c'est 10 plaies, jusqu'à ce que finalement ils laissent partir le peuple d'Israël qui était en esclavage. Mais ces sacrificateurs-là leur rappellent, vous vous souvenez que ce Dieu-là des Israélites là, n'a pas arrêté de frapper l'Égypte et Pharaon jusqu'à ce que finalement il les laisse partir. Donc, n'endurcissez pas votre cœur pour tenir tête à ce Dieu-là. Vous n'en viendrez pas à bout. Il est plus fort même que vos dieux, que Dagon et les autres. Vraiment, ça glorifie Dieu, ce genre de paroles-là, qui sortent de la bouche de gens qui ne possèdent même pas la loi. Donc, ils devaient même les sacrificateurs, disent, faites en sorte de glorifier le Dieu d'Israël, de l'honorer. Même au-dessus de vos propres dieux. Et pour cela, renvoyez l'arche, mais ne la renvoyez pas à vide. Même si en soi c'est un signe d'humiliation, montrez que vous reconnaissez que vous êtes coupable. Vous allez offrir une offrande de culpabilité. C'était un moyen justement de vérifier si l'Éternel était bel et bien en colère contre eux. Donc s'ils pouvaient faire tout ce qui était en leur possible pour apaiser sa colère et que sa colère s'apaisait, ça allait être un signe que vraiment ce qu'ils avaient subi, c'était une conséquence de leur offense au Dieu d'Israël. Et ils allaient offrir 5 images des tumeurs, des hémorroïdes là, qui les faisaient souffrir, en or, je ne sais pas c'était quoi la forme. Je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'images qui nous viennent en tête, là, mais... Et 5 images de souris en or. 2 x 5, c'est difficile à traduire ce passage-là. Certains commentateurs pensent qu'il s'agit du même objet. Des souris qui rappelaient la forme d'une tumeur. Mais je crois que c'est vraiment deux kits, on peut dire. 5 pour représenter les 5 ducs et 5 souris pour représenter les 5 villes principales, capitales du royaume des Philistins à cette époque. Puis la souris était un symbole de la peste, de la propagation, de la contagion. Donc que ce soit... que la maladie ait été réellement ou non propagée par des souris, ce n'était pas important. C'était vraiment un symbole qu'ils reconnaissaient que ce qu'ils subissaient, c'était leur faute. Ils reconnaissaient que c'était Dieu qui les punissait par cette maladie. Donc, c'était moins la valeur en or de ces objets, bien que de l'or, ça vaut cher, mais c'était moins la valeur en or de ces objets qui était importante, qui était significative. C'était plutôt leur aveu public. Ça allait être transporté sur un char jusque chez leurs ennemis. Donc, ils avouaient publiquement leur culpabilité envers le Dieu d'Israël, leur faute collective. Et si la plaie cessait, c'était parce qu'ils avaient pu apaiser la colère de Dieu. Ils devaient aussi prendre un char neuf pour transporter l'arche. Donc, un char qui a encore 0 km au compteur, qui sort du concessionnaire, qui sent le cuir. Non, mais c'est un char qui n'a jamais été utilisé ni pour un usage profane, ni pour un usage sacré, pour ne pas courir le risque d'offenser Dieu, qu'aux yeux de Dieu, ce char pouvait être souillé d'une quelconque façon. Donc, une manière d'honorer. Un char, la peinture est fraîche, là. Il n'a jamais servi pour personne. Une manière d'honorer l'Arche de l'Alliance qui sera transportée. Et l'Arche, le char sera tiré par 2 vaches, qui n'ont jamais été sous un joug. Un peu la même pensée, des vaches qui ne sont pas usagées. Mais c'est aussi parce que les vaches ou les animaux qui avaient l'habitude d'être sous un joug, en bois, sur leurs épaules, normalement, elles étaient entraînées pour aller dans une certaine direction. Elles développaient une habitude de travail, si on peut dire. Là, le fait de prendre 2 vaches qui n'ont jamais eu un joug sur elles, ça veut dire qu'elles vont se diriger vraiment là où elles le veulent. Et non parce qu'elles suivent une trajectoire préétablie ou parce qu'elles suivent un entraînement préalable. Donc, 2 vaches, finalement, là, qui vont pouvoir décider où est-ce qu'elles vont aller. Ces vaches aussi devaient être des vaches qui allaitent, donc elles ont des petits. Une vache qui allaite, ça veut que le lait sorte, là. Ça veut vraiment, c'est peut-être l'instinct maternel, ça doit exister chez une vache, mais ça veut vraiment allaiter ses petits. Et là, ils vont faire exprès de prendre les petits et les enfermer dans la maison. Normalement, les vaches vont tout faire pour aller dans cette direction-là, pour rejoindre leurs petits. Donc, ça va être une preuve que si elles ne vont pas par là et qu'elles se dirigent vers Israël, c'est vraiment parce qu'elles sont conduites par la main invisible de Dieu. Ça va être comme hors de tout doute, là. D'ailleurs, lorsque les vaches marchent, elles mugissent, elles meuglent. C'est peut-être parce qu'elles voulaient être très... En tout cas, les vaches, normalement, elles n'auraient pas suivi cette trajectoire-là. Donc, ils allaient pouvoir vérifier si vraiment elles allaient aller directement à Beth-Shemesh. Pourquoi Beth-Shemesh? Parce que c'était la ville la plus près en Israël, sur la frontière avec les Philistins. Donc, le chemin le plus droit pour se rendre en Israël menait à Beth-Shemesh. Et les Philistins ont suivi les conseils. Ils ont fait exactement comme il leur avait été instruit. Et le char, sans être conduit par un seul homme, s'est dirigé tout droit jusqu'à Beth-Shemesh. Elles auraient pu aller dans toutes les directions, les vaches. Elles se sont rendues directement à Beth-Shemesh. Et les princes des Philistins suivaient le char pour voir où il allait aller avec leur délégation. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que finalement, c'est vraiment Dieu qui avait conduit le char jusqu'en Israël. Et donc, que c'était vraiment l'Éternel qui était la cause de la plaie qu'ils avaient subie. Dans un sens, Dieu leur montrait aussi qu'il agréait leur offrande, qu'il l'acceptait. Donc, que sa colère allait s'apaiser. Il agréait ce geste d'humiliation des Philistins. Il allait mettre fin à la plaie. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste, qui ne va pas punir simplement pour le plaisir de punir. Et il sait reconnaître l'humiliation, la repentance dans le cœur, même de quelqu'un qui connaît un peu à propos de lui. On lit dans Actes 10, verset 34, « Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, pas de discrimination. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Ce n'est pas que les Philistins pratiquaient tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais ce jour-là, ils avaient fait une action juste et Dieu l'a reconnu. Et même cet acte d'humiliation glorifiait l'Éternel. C'était à la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs un message fondamental qui parcourt toute la Bible, puisque tous les hommes ont péché. On soit philistin, israélite, canadien, africain, haïtien, peu importe de quelle nationalité on se trouve, d'où on vient, on a tous un jour offensé le Créateur, le Dieu d'Israël. Donc, comment se présenter à lui? C'est par la repentance. Comment s'approcher de Dieu? C'est avec un esprit repentant. Et Dieu qui voit les cœurs, voit notre pensée, voit notre sincérité. Et même quand nous savons que nous avons été déjà pardonnés par le sang de Jésus, ce que nous allons célébrer ce matin à la mémoire de son sacrifice, mais c'est bon de s'en rappeler pour tout le reste de notre vie, et même de mener une vie de repentance, une repentance quotidienne, c'est la manière d'être en bonne relation avec Dieu. Le modèle de prière que Jésus nous a laissé, qu'on appelle le Notre Père, c'est une prière qui est quotidienne, où on veut que la gloire de Dieu soit faite, que sa volonté soit faite sur la terre, qu'il soit glorifié. On lui prie pour qu'il nous donne le pain quotidien, mais on lui demande aussi de nous pardonner nos offenses, comme on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quotidiennement, on demande à Dieu de nous pardonner. Donc, la relation, même une caractéristique d'une relation sincère avec Dieu, c'est de la capacité de se repentir, vraiment d'être humble devant le Créateur. Ça nous amène à la deuxième caractéristique de Dieu présentée dans le texte, c'est sa justice. Et dans sa justice, il a fait cesser, ou il fera cesser la plaie. Mais il y a autre chose aussi qui est démontrée. Donc, quand les habitants de Beth-Shemesh voient l'arche arriver, ils se réjouissent. Wow! C'était vraiment inattendu. Ça faisait 7 mois que l'arche était partie puis que le peuple était dans la honte. Mais là, l'arche arrive et elle se rend directement au champ de Josué et elle s'y arrête. Wow! Là, le peuple est vraiment dans la joie. Et comme par hasard, il se trouve une grande pierre. Et au moment où le narrateur écrit ce texte-là, cette pierre-là existe encore. Et il se trouvait en plus, à Beth-Shemesh, des Lévites. Les Lévites, c'est l'une des 12 tribus d'Israël. Et c'est la tribu qui est la seule autorisée à déplacer l'arche. Et comme par hasard, il se trouvait des Lévites à cet endroit-là, ce jour-là. Et ils ont pu prendre l'arche et la déposer sur la grande pierre. Ils ont vu les offrandes en or des Philistins et ils les ont aussi placées sur la pierre Donc, ils ont vraiment compris que c'était adressé à Dieu. Mais ils savaient une chose, c'est que pour Dieu, peu importe l'offrande qu'on offre, peu importe sa valeur, ça peut apaiser sa colère, mais ce n'est pas suffisant pour que le péché soit couvert. Ce n'est pas suffisant, peu importe l'offrande, la valeur en argent, même 1 million de dollars, ce n'est pas suffisant pour compenser pour le péché qu'on aurait fait. Parce que Dieu est juste, Dieu exige que le prix des fautes soit payé par la vie. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il s'agissait de la vie animale. Le sang devait couler. Donc, ils ont vu cela et ils ont démoli le char. Ils ont pris le bois pour le mettre sur la pierre pour faire un holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice où l'animal est entièrement brûlé, où la fumée monte comme jusqu'aux narines de Dieu pour que ça lui soit comme un parfum de bonne odeur. Donc, c'est une offrande qui est entièrement donnée à Dieu. Donc, ils ont mis le bois, ils ont sacrifié les deux vaches, les ont mises sur la pierre et les ont brûlées. Cette pierre-là est comme devenue ce jour-là un autel. Et le sacrifice effectué par les Lévites, dans un sens, c'était le sacrifice offert par les Philistins. C'est les Philistins qui demandaient à Dieu de les pardonner. Les sacrifices ont agi à titre de sacrificateurs, de prêtres, en leur nom. Ils demandaient pardon, finalement, d'avoir osé capturer l'arche et d'avoir déshonoré l'Éternel. Ensuite, les habitants de la région de Bethshemesh, à leur tour, ont offert des sacrifices, des holocaustes, pour leurs propres péchés. Le même jour. Et quand les Philistins ont vu tout cela, ils ont été persuadés, ils sont retournés chez eux, le même jour. Et on doit comprendre que la plaie s'est arrêtée. On voit que Dieu agit de même à l'échelle de toute l'humanité, dans un acte qui est définitif. Il a lui-même contrôlé les événements à un moment de l'histoire pour que son fils naisse d'une vierge. Donc vraiment un signe que c'était son action personnelle, son intervention pour faire naître son fils. Il l'a fait grandir sous sa protection, l'a élevé en sagesse, lui a donné son esprit. Il l'a conduit à exercer un ministère de prophète puissant auprès des Israélites, pour que son message soit ensuite transmis même à toutes les nations. Mais Dieu a aussi fait en sorte que son fils soit rejeté, soit mis à mort. On aurait tort de penser que c'était un échec de la mission de Jésus. Jésus devait mourir. On lit dans Actes 2, 23 que Jésus a été livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. Et en s'adressant aux Juifs, Pierre dit, « Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Pourquoi Jésus devait-il mourir? Parce que comme on l'a vu dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, le péché ne peut être pardonné que par le sang qui coule, par la vie qui doit payer pour le péché. Donc Jésus est mort vraiment comme sacrifice pour le péché des hommes. Sa vie devait être donnée, son sang devait couler, pour payer le prix de tous ceux qui s'approchent de Dieu d'un cœur repentant. Le sacrifice a été offert pour eux, pour tous ceux qui sont repentants, qui mettent leur foi dans ce sacrifice. Mais contrairement aux animaux qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament, son sacrifice ne fait pas qu'apaiser temporairement la colère de Dieu. Elle procure à l'homme de vivre éternellement. Donc la colère vraiment a été enlevée pour toujours. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc son sacrifice satisfait entièrement à la justice de Dieu et procure la vie éternelle. Dieu rappelle aussi, par le troisième événement dans ce chapitre-là, qui peut nous choquer un peu, qu'il est saint. C'est la troisième caractéristique de sa personne, la sainteté de Dieu. L'humiliation des Philistins est passée à l'histoire. On la lit encore aujourd'hui dans ce passage. Mais le jugement de Bethshemesh aussi, ce même jour. Et c'est frappant. Ça peut même être troublant. Dieu fait mourir 70 hommes. Ici, le texte en hébreu est très difficile à traduire. Puis peut-être que dans votre version de la Bible, c'est écrit autre chose. Dans la colombe, c'est écrit 70 hommes sur 50 000. Littéralement, c'est écrit 70 hommes 50 000 homme. Donc, il y a plusieurs manières de le traduire. Dans les versions, c'est écrit 50 070 hommes. Mais c'est invraisemblable. Premièrement, si c'était 50 070, très probablement que l'auteur aurait arrondi à 50 000. Aussi, Beth-Shemesh est connue pour être une petite ville. Donc, il y a eu 50 000 morts des habitants de Beth-Shemesh. C'est improbable. C'est pas que Dieu n'aurait pas pu faire cela, mais je pense qu'une meilleure traduction, c'est vraiment 70 sur 50 000, ou même encore meilleur, 70 hommes, c'est-à-dire 50 sur 1000. En tout cas, c'est une manière de traduire le texte en hébreu, ça fait du sens. Donc, 50 sur 1000, s'ils étaient 1400, ça donne 70 hommes. C'est bon? Mais peu importe, ce qui est important, c'est surtout que le fait qu'ils sont morts, simplement, le texte dit simplement parce qu'ils ont fixé les regards sur l'arche. Ça peut paraître sévère. Mais c'est écrit, ils ont fixé les regards dans l'arche. Certains pensent que l'arche a été ouverte et qu'ils ont regardé à l'intérieur, qu'ils sont morts. C'est possible, mais ce qui est important, en fait, c'est qu'ils semblent, par leur attitude, qu'ils ont déshonoré l'arche. Même si pourtant, ils l'ont mis à une place d'honneur sur la roche, sur la pierre, avec les offrandes à côté en or qu'ils ont fait, des sacrifices, ils ont traité avec trop de légèreté le symbole de la sainteté même de Dieu. Cette arche, selon les plans et les consignes de Dieu, devait être placée dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Et ce n'est pas tout le peuple qui pouvait passer devant. C'est simplement, seulement le souverain sacrificateur qui pouvait se rendre dans le lieu très saint une fois par année. Là, à ce moment-ci, l'arche n'était pas dans le tabernacle, puis on comprend que Dieu pouvait, jusqu'à un certain point, tolérer. Mais il semble que les gens n'ont pas assez pris en compte la sainteté de Dieu, l'ont traité avec trop de légèreté. Un peu comme des mouches qui s'approchent d'une lampe et qui brûlent à son contact. Et ils ont mené un grand deuil, les habitants, ce jour-là. Ils ont réalisé une vérité importante. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Ils ont compris, là. La sainteté de Dieu est terrible. Qui peut subsister en sa présence? Et l'arche devait partir de là. Mais pour aller où? Il n'était pas question qu'ils la transportent eux-mêmes. Donc, ils ont finalement envoyé des messagers aux gens de Kiriath Yearim, et ceux-ci ont accepté de venir la chercher. Pourquoi ils ne l'ont pas envoyée à Silo, où elle était précédemment? On ne sait pas, mais Élie et ses fils étaient morts. Ce n'était plus le lieu, finalement, glorieux du tabernacle. C'était un lieu qui était plutôt associé à la honte. C'est possible même que les Philistins aient détruit Silo après qu'ils aient remporté la victoire. Mais quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a fait en sorte que l'arche n'y retourne pas. Il s'est plutôt rendu à Kiriath Yearim, puis on l'a installé chez un homme, Abinadab, qui avait une habitation sur une colline. C'était déjà un endroit montagneux. Le fait qu'il soit plus haut, c'est un lieu qui convenait bien au roi d'Israël, à l'emblème du roi d'Israël, le lieu le plus élevé dans la région. Et ils ont consacré son fils, Éléazar, qui allait garder l'arche et éviter qu'il y ait d'autres tragédies qui surviennent de ce genre-là. Il semble qu'il va réussir, parce que pendant 20 ans, même 40 ans, il n'y aura pas eu de tragédie causée par la présence de l'arche. La prochaine fois qu'on entendra parler de Éléazar, c'est surtout de son frère Ouzi. C'est eux qui vont transporter l'arche à la demande du roi David pour l'amener à Jérusalem, mais son frère va toucher l'arche alors qu'elle est sur le point de tomber et il va mourir. Donc la sainteté de Dieu va se manifester encore 40 ans plus tard. Mais pour un temps, Dieu a fait en sorte que l'arche soit là, dans cette demeure-là, pas dérangée. Et il y a eu une trêve, là. Même on va voir au début du chapitre suivant, là, qui est pendant 20 ans, il y a eu comme une sorte de paix entre les Philistins et Israël. Mais qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? C'est une question que tous les hommes devraient se poser. Même Moïse, le serviteur de Dieu, l'homme le plus humble qui a existé, qui marchait pour sortir Israël, même lui, Dieu lui a dit dans Exode 33, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » parce que Dieu est saint et nous nous brûlons à son contact. Donc, si le sacrifice de Jésus ne faisait que couvrir nos péchés, enlever la culpabilité qui est sur nous, on aurait encore à craindre d'être dans la présence de Dieu. Mais Jésus fait plus que ça. Il nous rend saints. Il nous rend purs, il nous rend dignes d'entrer dans le lieu très saint. En Éphésiens 5, verset 25, on lit que Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, donc de la rendre sainte. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est donc possible d'envisager de voir un jour notre Créateur face à face sans craindre de mourir. Pas grâce à l'action de Jésus en nous qui nous transforme. Et on sait qu'heureusement, il va compléter cette transformation-là. Il va renouveler notre être en entier pour que nous soyons sans tâche, nous présenter devant Dieu sans craindre de mourir. Et Dieu nous assure qu'il va le faire parce que, comme on l'a vu, Dieu contrôle les événements, même les actions des hommes, et il va continuer à le faire jusqu'à la fin des temps. Et même là, même après notre mort, Dieu ne perd pas contrôle. Dieu a ramené son arche en Israël sans l'aide d'aucun de ses serviteurs, et même par la main de ses ennemis, pour sa propre gloire. Donc ne doutons pas qu'il va accomplir son plan dans nos vies. Pendant la durée de notre vie sur la terre, Dieu va accomplir son plan. Rien ne pourra lui faire dévier de ce qu'il a planifié pour nous. Il va s'assurer que nous vivions, que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, jusqu'à la seconde près où il a décidé que nous allions mourir, ou que son Fils revienne. Espérons qu'il revienne de notre vivant. Donc Dieu demeure souverain. Dieu est juste aussi. Rappelons qu'il est que le seul moyen d'être réconcilié avec lui et d'éviter la condamnation, c'est par le sacrifice de Jésus. On peut l'oublier. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de nous le rappeler régulièrement par la table que nous allons célébrer. Ne tombons pas dans le piège de penser que c'est parce que nous avons atteint un niveau qui est suffisamment bon pour que Dieu nous laisse entrer au ciel par notre propre mérite. C'est uniquement par le mérite de Jésus-Christ que nous pourrons entrer au ciel, avoir la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus ne périra pas. Il aura la vie éternelle. Et Dieu est saint. Et c'est parce que Jésus nous rend saints que nous pourrons un jour être dans la présence de Dieu. Sachant cela, ne perdons pas de temps pendant notre vie sur terre. La Bible nous dit que si vous êtes convaincus qu'un jour vous vous serez rendu saint, commencez dès maintenant à vous sanctifier. 1 Thessaloniciens 4 dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est Hébreux 12, 14.